Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue, oh oui, bienvenue dans un podcast qui traite de l'actualité du champion de France 2023-2024. Voilà, c'est fait, le Paris Saint-Germain est champion de France. Et vous savez quoi ? C'est mérité. Mérité pour ce PSG qui a bien bossé toute la saison. Alors, bienvenue en tout cas à toutes et tous dans cet épisode 35 de 100% PSG à la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Et ce matin, j'ai fait le malin, là, et le kéké, en train de vous dire, oui, champion de France, tout ça, mais j'aimerais quand même m'excuser platement. Oui, platement, quand on est rond, c'est pas toujours très simple, mais quand même, je vais le faire, voilà. Je voudrais dire bravo à Brest. Brest qui a donc décroché hier sa place européenne. Il n'y a aucune vanne dans ce que je viens de faire et qui la mérite amplement, oui. C'est pas la meilleure idée d'avoir un si petit club en Ligue des Champions, mais franchement, hier, j'étais dans les rues de Boulogne-Billancourt, en sortie du stade, et j'étais comme un âne, avec mon smartphone, en train de mater le match de Brest face à Rennes, parce qu'il y avait du suspense, parce que ça jouait, parce que c'était du vrai football. Cette équipe me redonne, oui, un peu de goût au football, un petit peu comme le Paris Saint-Germain, et franchement, merci à cette équipe de Brest, même si je déteste toujours Éric Leroy. Je trouve que cet homme a amené un petit côté foot anglais dans ce championnat français, ce côté un peu tu dois marquer juste un but de plus que d'adversaire pour le terrasser. Et donc, bravo à cette équipe de Brest. Voilà, je pense aux copains et copines qui sont fans de Brest. Alors, je vous annonce tout de suite, je ne vais pas être fan des petits F, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, bravo à eux. Et vraiment, félicitations à l'OM, à Lyon, à Rennes, qui ont vraiment bien bossé. Voilà, 3 des plus gros budget du foot français qui sont derrière cette équipe de Brest. Je sais, j'ai fait une intro sur Brest. Vous inquiétez pas, ça va pas être une émission totalement sur Brest. En tout cas, Brest et Paris méritent là où ils sont. Un est champion, l'autre sera européen. Bravo à eux, ils nous ont redonné goût au football dans le championnat français et c'était pas une mince affaire.
100% PSG, la tribune.
Au sommaire de cette tribune, champion mon frère, oui, le PSG l'a fait sur ses réseaux sociaux ce matin avec Marquinhos qui nous l'a dit, et ça pour la 12e fois de l'histoire du club. Paris a remporté le titre de champion de France de Ligue 1, 70 points, une seule défaite, il reste encore 3 matchs à jouer pour ce PSG qui a été ultra sérieux cette saison et il a redonné vraiment du plaisir à tous les supporters, à nous tous aussi dans ce studio. On s'est régalé et on se régale avec ce Paris Saint-Germain qui est donc en course toujours pour son possible quadruplé. Oui, parce que c'est le deuxième trophée de la saison après The Fabulous Trophée des Champions. On va bien sûr en parler dans cette émission du titre de champion avec cette question: quelle valeur a ce titre de champion de France? Voilà, dans quelle catégorie vous le placez? On va demander ça, bien évidemment, à nos débatteurs. On parlera ensuite d'une prolongation annoncée par surprise, mais qui fait vraiment plaisir, la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Est-ce que l'avenir du club appartient au Titi du PSG? Et attention, quand je dis Titi du PSG, je ne parle pas que d'un Titi, mais je parle des Titi du PSG quand on voit la signature jusqu'en 2029 de Warren Zaïre-Emery. Enfin, je sais votre impatience. Vous allez me dire, il va nous parler de Dortmund ou quoi? On est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est mercredi, ne vous inquiétez pas, bien évidemment. On va parler de la Ligue des Champions Dortmund-PSG. Paris est-il le grand favori de ce match qui se joue mercredi et ensuite mardi suivant? Mercredi, ce sera du côté de Dortmund. On se pose bien évidemment la question de ça et de beaucoup d'autres choses. On en parle dans la tribune. Je vous présente l'équipe.
100% PSG, la tribune.
Qui compose l'équipe du jour? Romain Bédouc de la team France Bleu Paris. Salut Romain.
Salut à tous.
Bienvenue Gary de Jésus, journaliste chez Perform Group. Gary, l'homme qui cette saison, avec, voilà, vous savez, c'est un peu un éleveur de pur sang. Il a tous ses chevaux qui vont rentrer dans le quartier là.
On a du
Vitinha, on a du Ramos, on a du Mendes. Bon, il y a juste Danilo qui a remis ses boîtes à chaussures. Mais en tout cas, salut mon Gary.
Salut à tous. Ouais, c'est un titre avec des petites saveur portugaise, donc on adore ça.
Attends, très franchement, le Portugal qui sur sa page Twitter nous fait un petit post avec 4 joueurs portugais en train de féliciter le Paris Saint-Germain, c'est quand même, c'est improbable. Ça se fait pas tous les matins.
On est des un peuple très aimable. C'est il faut le souligner. Non, c'est vrai que c'est pas, ça arrive pas tous les jours, même pour les autres clubs, ça arrive pas, c'est pas quelque chose qu'ils font souvent, mais il y a beaucoup de joueurs importants qui sont passés par le Paris Saint-Germain et qui y sont aujourd'hui, donc on a un lien de plus en plus fort.
Et d'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Pauleta.
Oui, en plus, 51 ans. Voilà, ce petit lien qui va bien. Et encore ce week-end-là, voilà, une petite passe des noms. Alors, en tout cas, c'est vrai, sur Twitter, on a vu ce post. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils vont pas bien. C'est Gary Carpentier CM. Tu vois, on s'est dit, c'est parti. Et le dernier de notre trio aujourd'hui, on est ravis de le retrouver. C'est un des piliers désormais de cette tribune, cette saison. Alexandre Aflalo de la rédaction PSG du Parisien. Salut, Alex.
Bah, bon dia, du coup.
Ah, bah voilà, très bon.
C'est un très bel accent.
Voilà, oui, c'est parti.
Très bel accent. D'accord.
Tu sais quoi, Gary? Je suis en train d'y penser. Je pense qu'on pourrait peut-être faire la saison prochaine la tribune en YouTube, tu vois, on pourrait faire le YouTube live aussi sur le côté YouTube et podcast en portugais.
Mais pourquoi,
parce que là,
pas
je comprends bien qu'on est parti sur une
pourquoi
sur
pas
une
ça intéresse de plus en plus, hein.
Voilà, très bien.
Par contre, je sais dire que ça, hein. Moi je sais pas. Je pourrais pas assumer au
plus. Je pense qu'il va falloir que je trouve du monde. Enfin, il va falloir que je trouve du monde. C'est ça, mais moi aussi c'est pareil, ça va être bon. Bah, je laisse le truc à Gary. Je vous rappelle bien évidemment, si vous nous retrouvez sur YouTube, les pouces, les petits commentaires, bien évidemment, tiens, dites-nous de là où vous avez fêté le titre hier soir, ce titre qu'on aurait dû fêter samedi soir, mais grâce à ce 3-3 merveilleux sous la pluie face au Havre, et ben on l'a fêté hier après la victoire de Lyon face à Monaco, le PSG qui est donc devenu champion de France. N'hésitez pas bien évidemment, et puis en podcast audio, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, les petites étoiles qui vont bien, pour encourager la team de France Bleu Paris et de cette tribune. On est très heureux de vous recevoir et de vous retrouver, les amis. Paris est champion, je vous ai pas préparé à ça, mais je veux quand même vous lancer. Je voudrais juste un tout petit mot pour évoquer ce titre, et après, derrière, on fera notre débat. Mais là, comme ça, si je vous dis un mot pour évoquer ce 12e titre de l'histoire du Paris Saint-Germain, ce titre de champion de France sous l'ère Luis Enrique, Alexandre.
Le logique.
Très bien.
Ouais, logique.
Logique,
faut
très bien.
Faut que je développe.
Non, je garde mon logique. Très bien, je prends mon logique. Gary.
Alors, je suis sûr que ça va être mal interprété.
Oui.
Mais je vais dire inespéré, je dirais plus tard tout à l'heure.
Très bien, inespéré. Je le garde après, vous inquiétez pas. Et mon Romain ?
Domination.
Domination, très bien. Voilà, les trois mots, logique, inespéré, domination. Vous savez quoi, ça tombe bien, on en parle juste après. Pour l'instant, on fait notre tour de table parce qu'on ne va pas tout changer en se disant « Ouais, on va d'abord parler de Dortmund parce que ça arrive mercredi, il y a le titre. » Non, on se pose, c'est votre émission, vous savez comment ça se passe. Le j'aime, j'aime pas. On va attaquer avec, allez, c'est pour toi Gary. Première passe, oui, Gary, ton j'aime.
Je me demande si j'aurai pas la 60e, moi. C'est bon, je peux commencer dès le début.
C'est ça. C'est vrai qu'on pourrait te faire rentrer comme ça la 60e dans cette émission.
Si je débloque la situation, ça peut être
c'est
pas
très
mal.
Bien.
Alors moi, le j'aime, c'est un certain numéro 9 du Paris Saint-Germain qui, quand il rentre, c'est difficile pour les autres qui étaient à son poste parce que la comparaison est très compliquée. Il apporte quelque chose. Bon, c'est Gonçalo Ramos, hein.
Bien sûr, on arrête
le suspense. Il apporte quelque chose dans ce jeu, une palette que personne d'autre n'apporte dans cet effectif. Son jeu dos au but, sa création d'espace pour les autres. Et quand on a Mbappé et Dembélé sur les côtés, selon moi, c'est la pièce du puzzle manquant comme ça dans l'axe pour exploiter le maximum de potentiel des autres. Donc, il leur crée des espaces, il joue rapidement, il joue toujours dans le sens du jeu, peu de touches de balle, il touche et il repart, il est toujours à faire beaucoup d'appels, il s'arrête jamais, le pressing incessant jusque dans sa défense. Bref, vous avez compris, Gonçalo Ramos, pour moi, il est monté en puissance. Il a eu une saison difficile, on l'a eu après en zone mixte. En français et en portugais d'ailleurs, et en portugais. Il a expliqué que c'était une saison avec des hauts et des bas en termes de temps de jeu, en termes de avec la maladie qu'il a eu aussi, et que là il s'est jamais aussi bien senti au club qu'il se sent maintenant et qu'il espère avoir beaucoup de bonnes choses dans les mois à venir. Et ouais, c'est très positif pour lui, et je pense que quand on a un coach comme Luis Enrique, avoir un mec comme Gonçalo Ramos, peut-être pas que le joueur, mais aussi le personnage et le caractère qu'il a, je pense que c'est juste une pépite, parce que quand il est sur le banc, on l'entend pas, il crée pas de vagues, et malgré tout, quand il faut qu'il réponde présent, il répond présent tout le temps.
36 matchs pour Gonçalo Ramos, des bouts de match hein, pour certaines fois, 1666 minutes jouées, 14 buts, 2 passes décisives, donc il y en a une ce week-end hein, face au Havre, et donc ces 14 buts, il y a eu cette tête. Alors, pour l'instant, on est obligé de faire un comparatif, mais cette tête cavanesque, pour moi, j'avais l'impression, là, ce coup de boule bien placé, bien senti, un homme de jeu de tête, Romain, Je sais que Gonçalo Ramos, voilà, te plaît de plus en plus et tu nous parlais d'un certain Pedro Miguel Pauleta qui a fêté son anniversaire hier.
Moi, sa tête, elle me fait plus penser à Pauleta qu'à Cavani quasiment. Parce que c'est le bon placement, le bon timing, la bonne zone, pas la force forcément. Pas forcément le. C'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'il faut pour marquer ton but et c'est pleinement Pauleta pour moi.
Mais c'est un vrai attaquant à l'ancienne, quoi. C'est un attaquant vintage des années 90. Pedro. Et c'est ce qui nous touche au cœur, je pense, à beaucoup de supporters des Parisiens. C'est de voir ce numéro 9 à l'ancienne, un peu débarqué de nulle part.
Il y a un truc qui est assez fou parce que tu disais, je vais me retourner vers toi Alexandre, quand on parle de Gonçalo Ramos, oui d'accord, ça peut être avec Dembélé ou Mbappé, pourquoi pas d'être en pointe, mais quand on voit comment ça se passe du côté de Lorient, où là, le match trois jours avant le match du Havre, il est titulaire, il est pas très bien servi, plus compliqué de le trouver. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est pas Mbappé compatible, mais peut-être Barcola et Dembélé compatibles, je sais pas, mais c'est très bizarre dans le fonctionnement avec lui pour l'instant.
Je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que Gonçalo Ramos, il a une saison un peu paradoxale parce que il a eu des matchs sans qui étaient vraiment abominables et les matchs avec où il a été vraiment excellent. Donc pour l'instant, il n'a pas vraiment ce juste milieu. Je pense que c'est un. Enfin, vous parlez des joueurs auxquels il vous fait penser. Moi, quand il était arrivé, que j'avais fait un peu son profil et que j'avais regardé un peu les images de lui que je pouvais voir à l'époque sans avoir vu les matchs de Benfica à l'époque. Moi, il me faisait penser à une espèce de mix entre Cavani et Icardi, c'est-à-dire vraiment une espèce de renard des surfaces, toujours très bien placé dans la surface pour mettre vraiment le dernier tir ou même le jeu de tête qui est très bon, etc. Et puis en même temps, une espèce de chien de la casse qui va toujours chercher les ballons et tout. Et en fait, c'est vrai que ces deux joueurs-là, comme d'autres numéro 9 qui sont vraiment des grands finisseurs, ils peuvent avoir aussi des matchs où ils passent complètement à travers et où on les voit pas du match. Là, voilà, c'était pas le cas quand il est rentré en jeu le match contre le Havre, quand il a aussi ce petit côté impact sub aussi qui peut être intéressant. Je pense quand même que s'il veut s'installer dans le 11 la saison prochaine, il va falloir quand même qu'il arrive aussi à pérenniser ses performances quand il est titulaire, même sans être là à tous les matchs, même sans être excellent à tous les matchs, au moins qu'il soit peut-être plus influent à tous les matchs. Quoi.
Petite réaction de Romain et on passe au prochain.
Ce qui est peut-être le plus intéressant, sorti de son profil, qui est complet, tu l'as décrit, moi ce qui est le plus intéressant, c'est que tu sens qu'il travaille et qu'il comprend, qu'il cherche en tout cas à comprendre ce que son coach lui demande. C'est-à-dire que on parle du but de la tête, etc., mais la passe décisive pour le but d'Hakimi, Hakimi, c'est ce travail de je vais reculer un petit peu pour qu'on se serve de moi, de mon corps, que je protège ma balle, je vais faire une différence, je vais la mettre dans l'espace. C'est un truc qu'il faisait pas en tout cas en début de saison. Je sais pas, Gary nous dira s'il avait
largement capable de le faire.
Mais en tout cas, c'est un truc qui s'inscrit pleinement dans le projet collectif et dans ce qu'un numéro 9 peut apporter dans un système de Luis Enrique. Et c'est ça le plus important. C'est pas de se dire il faut absolument que Gonçalo Ramos joue tous les matchs devant avec tel joueur ou tel joueur. Non, l'idée c'est de se dire il offre une possibilité, il offre un schéma qui, dans les adaptations qu'on va vouloir faire, peut être satisfaisante. Et ça, en début de saison, on l'avait pas forcément. Il y avait le combat de savoir entre lui et Kolo Muani ce qui se passait. Et c'est surtout dans l'optique de la suite. Le numéro 9, c'est bon. Il y a un numéro 9 qui offre une possibilité. Il faudra peut-être trouver une rotation pour lui derrière si Kolo Muani est amené à s'en aller ou si ça marche pas. Mais on n'a plus besoin d'un numéro 9 titulaire dans ce profil-là, quoi.
Luis Campos, message, bien évidemment. N'hésitez pas à ne pas prendre Osimhen. C'était un peu ce que...
Non, mais bien sûr, Osimhen, 135 millions. Il y a d'autres d'autres choix prioritaires dans le 11 du PSG, quoi.
Gary, pour terminer.
Alors, sur le profil de Gonçalo Ramos à Benfica, il le faisait, ça. Mais il était plus près du but, quand même, parce que Benfica, il dominait beaucoup le championnat quand il était là. C'est plus le cas cette année, mais la saison dernière, en tout cas. Et il le faisait, ce truc de prendre la balle dos au but, de se retourner, de slalomer sur un joueur ou deux, max, et ensuite la décaler pour Rafa ou un autre. Et là, il l'a fait, mais d'aussi loin, c'était assez rare de le voir faire ça. Et je pense que ça, c'est, je suis quasiment sûr que c'est une demande de Luis Enrique pour vraiment laisser rentrer les autres comme ça et plonger. Et non, je pense que le début de saison, on le voyait pas parce que voilà, il venait d'arriver. Après, il a eu son problème d'adaptation, son problème. Je pense que Enrique au début, Luis Enrique était pas forcément à fond sur ses qualités. Il a vu au fur et à mesure son caractère et sa façon d'être. Et je pense qu'il crée son opportunité. Et moi, l'année prochaine, qu'il y ait un autre qui arrive, vous inquiétez pas, Gonçalo Ramos sera présent, que ce soit en super sub, il va travailler et il va donner l'opportunité, il va donner ce que le coach attend de lui au moment où on le demandera.
Alex Aflalo, avec toi, ton j'aime pas, tiens, pour
ah bah, commencer. Ça répond du coup au j'aime de Gary, parce que mon j'aime pas, ça va être Randall Kolo Muani, ou Muani même. Alors, il se trouve que j'ai discuté en tribune de presse avec Romain et Gary, ici présents.
C'est bien, vous préparez les émissions, c'est bien, je suis fier.
Non mais parce qu'on a discuté, et moi j'étais très content de voir Randall Kolo Muani titulaire en pointe sur ce match. J'ai été un peu déçu. parce que voilà, on l'a vu, c'était après le match
de Lorient.
Contre Lorient. Mm. On l'a vu discuter avec Luis Enrique, on a vu vraiment cette espèce de psychologie qui essayait de se mettre en place. On sentait vraiment qu'il était au soutien de son joueur.
Même en conf après. Hein.
Et puis même en conf après, effectivement. Je pensais vraiment que Kolo Muani aurait cette espèce de réaction un peu de confiance retrouvée, d'orgueil. Enfin, je sais pas, mais cette réaction, en fait, à ce moment-là, à cet instant-là qu'on a vu avec Luis Enrique, il l'a pas du tout eu. Il a été. Enfin, en fait, au-delà du fait qu'il n'ait pas été influent, il a été nonchalant. Enfin, je l'ai trouvé vraiment. Enfin, en fait, c'est l'exact opposé de Gonçalo Ramos. Voilà. C'est l'exact opposé de Gonçalo Ramos. C'est-à-dire qu'il faisait des courses, mais sans vraiment de but. Il gambadait sur le terrain, quoi. Il n'était pas vraiment. Il n'avait pas vraiment d'appel tranchant. Il n'avait pas vraiment de tentative. Je ne sais même pas s'il a tiré au but sur ce match. Donc voilà, c'est une véritable déception sur le match. Moi, je le dis et je le répète, je veux vraiment pas enterrer ce joueur tout de suite parce que je suis convaincu qu'il a des qualités et qu'il faut juste qu'il règle un problème qui doit être d'ordre mental cette saison.
Oui, c'est
maintenant,
sûr.
Honnêtement, c'est tellement frustrant de le voir aussi mauvais alors qu'on sait qu'il peut être brillant. Enfin, c'est juste ça qui me désole, quoi.
Effectivement, on rappelle juste une chose, il y a une feuille de stats qui est assez importante quand même pour Randall Kolo Muani, même si sa fin de saison est catastrophique. 42 matchs, je fais encore le parallèle avec Gonçalo Ramos, 42 matchs, 12 buts. Quand même. Alors, il y en a un qu'il faut enlever de Bundesliga, 1, 2, 3, qu'il faut enlever pour quand il était du côté de Francfort. Donc, ça nous fait 9 buts. Il y a 5 passes décisives, 6 passes décisives pour 2000 minutes.
Ouais, mais après, c'est. Enfin, j'aime bien les stats, hein. C'est top. Mmh. Hein. Mais le but. Quel match en Coupe de France il fait? Je crois que c'est contre Orléans. Il fait un match immonde, il marque à la fin.
Ouais.
Même lui, il est limite désolé d'avoir marqué. Tu vois, ouais. Ces buts-là, là, ces stats-là, ça compte ou pas? Tu vois?
Non.
Il y a des trucs.
Dernier but contre Lille le 10 février dernier, par contre, pour aller sur le côté.
Ouais, après, parce qu'après, il joue moins dernièrement. Mais le problème de Kolo Muani, c'est que, ouais, on voit les matchs, quoi. Donc tu peux me sortir toutes les stats que tu veux, il peut être en 10-10.
Par ailleurs, les stats sont pas hyper impressionnantes, honnêtement. Enfin, 9 buts, 6 passes décisives.
Non, mais c'est pas Ekitike l'année dernière, par exemple, tu vois.
Oui,
ça.
Voilà.
C'est mieux. Mais franchement, dans le rang du terrain.
Les amis, justement. Sur Randall Kolo Muani, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu peur. J'ai l'impression, parce que je vous entends, peut-être qu'il va se relancer tout ça dans le projet. Est-ce qu'il comprend? Parce que vous, tout à l'heure, vous parliez de Ramos. On a parlé de Ramos qui, lui, comprend le Luis Enrique. Est-ce qu'on n'est pas avec un joueur qui, lui, ne comprend pas le Luis Enrique? Parce que d'un côté, il comprend le Deschamps. On l'a vu avec l'équipe de France marquer et être bon.
C'est pas son football, voilà. En fait. C'est pas son football, Luis Enrique. Alors que Ramos et Luis Enrique, ils parlent le même football. Il y a des choses qui se ressemblent, il y a des similitudes entre le football portugais et le football espagnol, football très technique, etc. Donc ça parle le même football, et là, on le sent que Kolo Muani, c'est pas la même personne quand il est avec Deschamps, qui parle la même langue que lui, je parle de football évidemment, et on le voit là, et ce qui est triste, en fait c'est juste triste sa saison. J'ai pas envie de lui rentrer dedans encore une fois, il est mis dans les meilleures conditions. Moi, quand je l'ai vu parfois, il était en pointe. On disait ah oui, mais c'est pas son poste. On va le mettre plus sur le côté. Il a été mis sur le côté. Il a fait des matchs entiers sur le côté. Ça s'est pas bien passé. Là, pareil, on le remet dans l'axe. Et encore une fois, il y a rien qui se passe. Donc moi, je le vois pas aussi mauvais qu'il l'est. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bloqué de son transfert, son retour à Paris, etc.
Alex, pour terminer, et après on va avoir le gemme de...
Je pense que la différence fondamentale entre Ramos et Kolo Muani, au-delà de l'aspect culturel football, c'est que Ramos, il a fait les efforts pour s'adapter au football de Luis Enrique aussi. C'est-à-dire que tu peux à la base ne pas parler le même football, et puis à côté, cravacher pour justement apprendre la langue de ton entraîneur, si tu veux, pour filer la métaphore. Mais c'est là, en fait, honnêtement, moi, l'impression que j'ai eue sur le match contre le Havre, c'est qu'en fait, Kolo Muani, il a même pas fait l'effort. C'est-à-dire que il était juste là, quoi. Il était juste là. Alors, honnêtement, on peut le tolérer sur un match, deux matchs, trois matchs où t'es moins bien. Là, honnêtement, c'est une saison entière où c'est en termes d'envie, en termes d'intention, on retrouve pas un grand joueur, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup qui estiment, enfin beaucoup, notamment chez les collègues et tout, qui estiment que il a atteint son plafond de verre et qu'en fait c'est juste pas un joueur qui est destiné à faire une grande carrière. Moi, honnêtement, encore une fois, je l'enterrerai pas aussi vite. C'est-à-dire que
ça va dépendre
beaucoup
de comment il va réagir.
Voilà. Comment il va réagir à la prochaine, à ça. Comment il va réagir à son prochaine. Et puis, c'est peut-être aussi une question de contexte. Hein. Ouais, c'est peut-être une question de contexte. Et peut-être que le PSG aussi, c'est pas un contexte pour lui. On le verra vraiment. C'est la saison prochaine qu'on aura, je pense, les réponses définitives sur lui.
En tout cas, on verra effectivement ce qui sera fait pour Randall Kolo Muani. Ça sera peut-être aussi une valeur marchande pour des transferts un peu importants.
Mais il y a une vraie question qui se pose. Si Kolo Muani fait un bon euro. Imaginons, il joue, il y a une blessure en équipe de France, il est amené à jouer, il met but en huitième, but en quart, voilà, il est bon, l'équipe de France qui va au minimum en demi-finale de l'Euro. Il y a un club européen qui arrive et qui met entre 50 et 60 millions sur Kolo Muani. Bah avant, hein.
Oui, ça c'est sûr.
Moi je pense.
Donc il y a un moment,
il y a aussi un moment,
c'est une possibilité, quoi.
Je te rejoins.
Ouais, je pense qu'il le fera. Je pense que le Chili, il a gagné.
Mais
c'est possible, tu vois.
S'il se fait blouser par Barcola, on peut rigoler.
Non, mais Barcola, il y a Coman qui est blessé. Donc,
oui, c'est vrai. Romain,
oui.
Ton j'aime.
La gestion des temps de jeu.
Très bien.
C'est réglé comme du papier à musique. Ça a l'air d'être hyper facile de dire ça, etc. Mais regardez les 16 joueurs qui vont postuler et qui vont jouer le match aller là, contre Dortmund. Les 16 auront joué au moins une heure sur les deux matchs qui ont précédé. Soit ils ont été ménagés contre Lorient là-bas et ils ont joué 90 minutes face au Havre. Je pense à Marquinhos, je pense à Warren, je pense qui d'autre qui a été ménagé, Vitinha qui était ménagé. Ils ont joué. Soit ils ont joué ce match-là face à Lorient, comme Lucas Hernandez, comme Nuno Mendes. Ils ont été ménagés par la suite. Sur ceux qui ont joué les deux matchs, il y en a, ils ont joué une heure par-ci, 30 minutes par-là. Kolo Muani, Ramos. On inverse les deux, mais ils ont joué une heure et une demi-heure. En fait, et donc, c'est pourquoi je dis ça, parce que on se retrouve, et c'est, faut pas le banaliser, en fait, ça paraît logique, mais faut pas le banaliser. On se retrouve avec une demi-finale de Ligue des Champions dans deux jours, et à part la blessure longue de Kimpembe, on n'a toujours aucune blessure musculaire, et Sergio Rico qui est revenu dans le point médical maintenant. Mais aucune blessure musculaire, pas de blessure longue. Une gestion des temps de jeu qui fait que les mecs sont non seulement pas blessés, mais en plus en forme. C'est-à-dire que Ramos te dit que c'est son pic de forme maintenant. Mbappé, il a l'air quand même super bien parce que le match face à Lorient, il est quand même très bon de la part de Mbappé, pas que dans la réalisation, dans l'incorporation au collectif. Barcola, c'était un peu plus compliqué, il est revenu. Warren Zaïre-Emery, il a eu une petite baisse de régime là, sur la période février-mars. Là, ça a l'air d'être mieux, il était mieux face au Havre. Physiquement, tout le monde est au top au moment où il faut être au top. C'est un vrai luxe et c'est un vrai travail. Ça a l'air d'être comme ça, d'être dit, ça coule de source, etc.
Ouais, c'est
un vrai
dents.
Travail. C'est un vrai travail du staff et c'est une super, super chose pour le PSG.
Tu rejoins
complètement,
voilà.
complètement.
Ce que nous dit Romain.
Et c'est pas du tout anodin, surtout quand tu regardes les autres grosses équipes en Europe. Là, on voit le Bayern qui ont perdu pas mal de joueurs. Le Real, tout au long de la saison, c'était très dur défensivement, etc. Et même dans d'autres postes, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Liverpool et d'autres, j'en passe, il y en a plein. Et c'est vrai que la gestion de ce Paris Saint-Germain cette saison, elle est quasi parfaite. Sur la rotation, moi, je mettrais juste un petit bémol sur Manolo Garté qui fait...
Oui, c'est vrai, qui est sorti complètement aussi, du truc.
Qui est sorti du truc et j'en suis un peu triste parce que je pense qu'il a un gros potentiel aussi. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que... Et je pense que c'est une des clés de la fin de saison et une des clés de ces sprints finaux que justement le Paris Saint-Germain a eu tant de mal à faire depuis des années. Et là, Luis Enrique a su gérer ça de manière quasi parfaite selon moi.
Et c'est en plus pour ajouter, c'est un truc que tu t'es aussi, c'est un luxe aussi que tu t'es offert. C'est-à-dire que tu as pu faire ça parce que tu as pris de l'avance en championnat et qui a permis à mettre des matchs un peu plus de côté. Typiquement, bah, tu reviendras sur la charnière centrale certainement tout à l'heure, mais typiquement, ta charnière centrale, tu l'as fait tourner. Marquinhos ou Lucas Hernandez, ils seront dispo pour le match face à Dortmund. Dortmund, ils n'ont pas pu faire tourner parce qu'ils ont des enjeux en championnat. Mats Hummels, s'est pété, il va.
Et la rotation, elle a pas débuté là.
Ouais,
c'est ça aussi, c'est-à-dire que tu as pris de l'avance en habituant ton groupe à cette rotation depuis quasiment le début.
Bien sûr.
Et ça, c'est très fort aussi.
C'est vrai que Luis Enrique, c'est le premier entraîneur qu'on a depuis longtemps qui dit qu'il veut 22 titulaires et qui applique littéralement cette.
C'était foutu de sa gueule en début de saison quand il avait dit ça.
Non, mais en fait, parce qu'ils l'ont tous dit. Ils l'ont tous dit. Sauf qu'en fait, les précédents se heurtaient à la réalité qui était celle du PSG cette dernière saison, qui était Mbappé, Neymar, Messi, ça ne bouge pas. Donc voilà, alors il se trouve que les circonstances ont fait qu'il a pu faire bouger Mbappé de ce 11 et ça a été au final, je pense, très bénéficiaire pour... très bénéfique, je ne sais pas pourquoi je réinvente le français. Très bénéfique pour le PSG.
Et pour Mbappé aussi. Hein.
Et pour Mbappé aussi.
Parce qu'il arrive, donc, il est en forme.
Donc voilà, je crois que Luis Enrique, encore une fois, voilà, pour l'instant, a tout bon.
C'est vrai qu'il a tout bon et ce titre de champion de France, il est pour lui. On y reviendra dans quelques minutes, bien évidemment. Très rapidement, on fait un deuxième tour de table. Ton j'aime pas, Gary.
Alors mon j'aime pas, c'est ma principale inquiétude de cette fin de saison pour le Paris Saint-Germain et je pense qu'elle a été pas mal, elle a été illustrée sur le match de samedi soir. C'est les plans B ou les solutions de rotation de cette défense centrale. C'est-à-dire que quand on voit un Danilo, malgré que je l'adore, quand on voit un Milan Skriniar dans cette défense centrale, ça se voit tout de suite.
Ah oui,
ça se voit tout de suite. On a eu André Ayew en zone mixte après le match, qui, bien sûr, essaye d'exploiter les points faibles du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire les côtés, quand tu as un Hakimi qui monte, quand tu as le défenseur gauche qui monte, quel qu'il soit, c'est dans le dos de ces latéraux-là. Et c'est ce qu'ils ont fait parfaitement, Le Havre contre le Paris Saint-Germain. Quand tu n'es pas dans une implication totale, c'est vraiment ton point faible et ça peut faire très mal. Et quand tu as des joueurs qui, en plus d'être dans cette implication de début de match où c'était pas complètement dedans, t'as des Danilo et Skriniar qui sont lents, qui reculent vraiment au ralenti. Et c'est très difficile. Et c'est pour ça que, personnellement, d'ailleurs, Alex me l'a soufflé avant l'émission, je crois que c'est l'une des seules défaites du Paris Saint-Germain. La défaite du Paris Saint-Germain contre Nice, c'était justement avec cette charnière-là. Et ouais, pour moi, c'est la principale inquiétude. C'est s'il y a qui est sur le coup d'une suspension pour le demi-finale retour.
C'était remis à zéro.
Écoute, s'ils se prennent un carton jaune ou un rouge, Lucas Hernandez ou Marquinhos ou même Beraldo, moi, ça me fait très peur pour la suite.
Effectivement, c'est pas forcément la grande sécurité. Idem pour, je sais pas, on va pas en revenir là-dessus, mais j'ai trouvé Beraldo, notre consultant Eric Rabesranatana, dans le match, a trouvé Beraldo nonchalant à son poste de latéral gauche et voilà, avec des attitudes déjà d'un garçon qui se prend un petit peu pour un autre dans ce qu'il fait. C'était en tout cas son propos.
Moi j'en veux à un mec, hein. Moi j'en veux à Nardi Mukiele, hein. Parce que la solution de rotation, que ce soit en défense centrale ou sur le poste de latéral, ça devrait être lui. Le problème, c'est qu'il a décidé cette année, en voyant que la concurrence faisait que il allait peut-être avoir moins sa place en termes de titulaire parce que son profil ne correspondait pas. Il a décidé de moins suivre dans son rythme de vie pour pouvoir se donner la chance d'intégrer pleinement la rotation au point d'en sortir quasiment.
Peut-être que lui aussi n'y a pas cru aux 23 joueurs en début
de
saison.
Ouais, certainement, mais ça a été une erreur parce que Nardi Mukiele, il pourrait. Tu vois, si t'as Mukiele qui peut jouer latéral gauche, Beraldo va peut-être jouer dans l'axe. S'il joue dans l'axe, on n'a pas Danilo et Skriniar ensemble. Tu vois, on peut le faire tourner de temps en temps, etc.
Mais
là, c'est pas juste une question de profil. Luis Enrique a montré depuis le début de la saison que même les joueurs dont il n'avait pas qui n'étaient pas adéquates en termes de profil, il a réussi à les incorporer et il a réussi à les faire changer. Donc c'est qu'il s'est passé autre chose. Et on a quelques échos aussi sur le rythme de vie de Nardi Mukiele, qui n'est pas celui de. Voilà.
De toute façon, avec Luis Enrique.
Il sort.
Avec Luis Enrique, de toute façon, à première vue, les noceurs et autres joueurs qui ont une vie qu'on aime bien. Moi, je.
Oui, voilà.
Un peu rock'n'roll, ça me plaît. Non, mais moi, je vais pas aller. Les mecs un peu rock'n'roll, moi, ça me plaît. Voilà, j'ai pas l'impression que chez Luis Enrique, ça soit.
Pour être compétitif, c'est plus embêtant. Et même si Mukiele avait montré, je crois qu'il avait joué le match contre Lille où il avait joué quasiment 90 minutes et on n'avait pas vu la diff d'un point de vue physique, mais peut-être que dans la répétition des efforts, dans la répétition des échéances, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Il y a un truc qui fait ça. De toute façon, je pense que, ceux qui ne jouent pas beaucoup,
C'est pas juste Luis Enrique a été méchant, il a mis Mukiele, il veut pas le remettre. Hein. Non, c'est pas ça. Il y a un moment.
Ça, on est d'accord. Mon ami Alexandre Aflalo, je te propose de nous faire ton j'aime, s'il te plaît.
J'accepte cette proposition.
Merci.
J'ai beaucoup aimé le match d'Achraf Hakimi, et notamment sa seconde période, car j'ai trouvé que, déjà, il a été excellent. Il est impliqué sur le premier but, il marque le second, le deuxième, pardon, et je crois qu'il est pas impliqué sur le troisième, mais bon, voilà. Et puis au-delà de ça, j'ai trouvé que à 3-1, c'est vraiment lui qui était au-dessus de la mêlée en termes de rythme, en termes d'intention, qu'il a fait des grosses récupérations, des grosses percées, qu'il a lancé des contre-attaques, qu'il était vraiment, pour le dire ainsi, au four et au moulin, voilà. Et donc voilà, on l'a suffisamment critiqué dans ce podcast, notamment après son retour de Cannes où ça a été compliqué pour lui, où il était un peu absent, où il était un peu fantomatique. Là, j'ai trouvé qu'il a fait un match vraiment, vraiment plein, vraiment complet. Ça a sans doute été le meilleur Parisien sur la pelouse avant-hier.
Prolongation de contrat à peut-être venir pour Achraf Hakimi, et joueur qui finalement arrive lui aussi prêt dans le bon moment et dans le money time, et ben, il est là.
Ouais, c'est bien. Mais un bon Hakimi, c'est automatiquement un bon PSG. Hein. Il n'y a pas beaucoup de moments où Hakimi a été bon et le PSG n'a pas été bon. Bah alors, et il n'y a pas beaucoup de moments où le PSG a été bon sans Hakimi.
Samedi, le PSG n'a pas été très bon, mais Hakimi a été bon.
Ouais, mais tu mets en relief la seconde période. Oui. La deuxième partie de seconde période du PSG, elle est bonne.
Ça, les 20 dernières minutes étaient un peu
folles. Bah ouais. Oui. Mais c'est quand t'as un bon Hakimi, il y a quand même beaucoup plus de chances que ton PSG soit très très bon.
En tout cas, Achraf Hakimi, effectivement, excellent. Et belle petite passe de Gonçalo Ramos pour son but, le deuxième but du Paris Saint-Germain. Face à cette équipe du Havre, oui, 3-3, tout ça. Bon, machin, etc. Ça a été un peu compliqué. Ça nous a un peu gâché la fête. Ça aurait pu être sympa de faire dire qu'ils sont champions de France ce samedi soir. On l'aura fait grâce à Lyon, face à Monaco. On va y revenir dans quelques instants. Romain, très rapidement.
Oui, très très rapidement.
Très très rapidement.
Bon, tu sais quoi, je peux même changer parce que j'avais oublié un truc. Vas-y. À la base, je voulais parler du fait que Thiago Silva arrêtait avec Chelsea, et donc il avait fait une vidéo hommage il a fait une interview à Chelsea et que ça manquait un peu pour le PSG. Bon, ok, c'est bien. Mais il faut parler de Navas aussi. Navas, c'est dur, les gars. C'est dur. Ça me gêne un peu, moi. Ça me gêne un peu de voir Navas, de voir Navas comme ça. C'était certainement son dernier match avec le Paris Saint-Germain.
C'est vrai.
Voilà, parce que il jouera plus d'ici la fin de la.
Peut-être un match de la saison. Il va le faire rentrer à la fin.
Mais il reste plus qu'un match au parc. Donc c'est un peu compliqué. Mais il est pas dedans. On a le prisme de vision des gardiens que par les erreurs. Mais donc on se rend pas compte des arrêts qui paraissent normaux. La première frappe d'Opéry, le but du Havre, je pense que Donnarumma plus Tenas, les deux, je pense qu'ils l'ont. Parce que c'est une question de rapidité pour descendre et essayer de potentiellement la claquer. Et tu vois que Navas, il est en retard. Tu vois qu'il est... C'est une très belle action. Et Navas n'est pas le seul responsable sur tout le but, parce que la défense, elle est vraiment... Voilà. Mais même, tu sens que c'est des buts arrêtables. La stat de Donnarumma, c'est qu'en termes d'expected goals que le PSG aurait dû encaisser, il a arrêté 10 buts depuis le début de la saison. Il aurait eu 10 buts en plus. C'est ça où tu le vois, et malheureusement pour Navas, c'est un peu compliqué. On parle beaucoup du salaire de Mbappé qui va être en moins dans l'année prochaine.
Bah oui,
il y a 13 millions en moins avec Navas, hein. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal dans ta masse salariale, hein.
C'est effectivement pas mal. On rappelle, 37 ans, grand monsieur, grand joueur. On a même eu des débats dans ce podcast.
Éternel respect, merci pour la campagne 2021, incroyable.
Mais là, il a lâché.
Je pense qu'en termes de force sur une période, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire du Paris Saint-Germain, vraiment. Qu'a montré le niveau qu'a montré Navas à ce moment-là. Il y a très très peu de gardiens au PSG qui dans l'histoire l'ont montré. Maintenant, regardez là, printemps 2024, c'est dur, quoi.
C'est effectivement très compliqué de voir notre Keylor Navas comme ça. Et effectivement, il a sûrement joué son dernier match. Alors tu vois, dans ces cas-là, même s'il sent, alors c'est bien qu'il réponde présent, mais il vaut mieux faire jouer Arnaud Tenas dans ces cas-là. Donne-lui du temps de jeu sur ce genre de rencontre. Si tu sais que c'est fini, bien sûr que tu ne vas pas prolonger un joueur comme ça. Et la bonne nouvelle, je vous le dis, voilà, et je le rappelle, c'est quand même d'avoir vu ces photos de Sergio Rico en train de s'entraîner avec le Paris Saint-Germain, de passer les tests physiques. Très exactement. On attend, c'est quand même un miracle, 82 jours à l'hôpital, hospitalisé, des semaines dans le coma après son accident de cheval en mai de l'année dernière. Et le voilà de retour. Il s'était fixé un objectif de tenter sa chance de revenir au plus haut niveau. On attend de savoir si le PSG donne ou pas feu vert pour lui, mais on croise les doigts bien évidemment pour le portier espagnol qui est en fin de contrat en juin 2024. Et quand on demande au Paris Saint-Germain quelle position le PSG a sur l'avenir de son gardien, on n'a pas de retour. J'ai fait un peu le côté, on ne sait pas trop comment ça va se passer. effectivement, il faut attendre de savoir si elle, si elle fait vert médical. Les amis, on va parler du titre de champion de France, bien sûr. Le PSG est champion, Paris champion. Je vous ai demandé un mot tout à l'heure. Il y a Alex qui nous a dit logique, j'ai Gary qui nous a dit inespéré, j'ai Romain qui m'a dit domination. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a décroché son 12e titre de champion de France, 12e titre de champion de France de D1, de Ligue 1. Paris qui est désormais encore un petit peu plus loin devant tout le monde, bien évidemment, et qui décroche ce titre. C'est le deuxième de la saison. Il y a le trophée des champions. Il y a désormais ce trophée en Ligue 1. La question que je vous ai posée, les copains autour de la table, on en parlera bien sûr après ensuite de Dortmund et aussi de Warren Zaïre-Emery. Quelle valeur a ce titre de champion de France pour vous et pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il a une saveur particulière? Parce que celui de l'année dernière, je me rappelle encore, les mecs partir de Strasbourg et tous se tirer, ne pas vouloir fêter ensemble. Quelle valeur a ce titre, Alexandre?
C'est une bien bonne question.
Merci de l'avoir posée.
Pour développer un petit peu, parce que du coup, ça rejoint
sûr,
un peu...
Ça
rejoint le logique. En fait, je trouve que... De manière générale, les titres de champion de France depuis 12 ans ont perdu de saveur pour le PSG, parce que forcément, t'en as gagné 10 sur 12. Donc, bon, c'est toujours, voilà, c'est devenu quelque chose d'assez normal. Je trouve que cette saison, le niveau global de la Ligue 1 a quand même été assez faiblard. Le niveau des concurrents potentiels au titre a été franchement pas ouf.
C'était une bataille pour qui veut pas être champion,
c'est ça. Et et donc franchement voilà, oui, le PSG a dominé la Ligue 1 et en même temps tu te retrouves à être champion avec 10 matchs nuls. Enfin, en fait, t'as même pas été au meilleur de ta forme, quoi. C'est-à-dire que t'as juste joué, quoi. Donc c'est enfin voilà, encore une fois, un titre est un titre. Ça fait plaisir, ça rajoute une ligne dans la feuille de palmarès, et évidemment il y a de quoi être ravi. Évidemment, ça n'aura pas le quart du dixième de la signification que pourrait avoir une qualification finale de Ligue des Champions. C'est sûr que ça n'aura pas la même saveur. C'est juste, honnêtement, c'est juste assez normal, je crois, ce titre de champion. Mais
je crois qu'il y en a un qui veut te tomber dessus. Alors
bah non, mais avec plaisir, on est là, c'est une question de débat.
Effectivement, Gary de Jésus secoue la tête. J'ai même entendu un. Qu'est-ce qui se passe, Gary? Qu'est-ce qui se passe?
Du tout d'accord.
Bah non, pourquoi? Vas-y, dis-le. Échangez, les amis, c'est fait.
Certes,
pour ça,
les adversaires n'étaient pas présents. Certes, c'était une course à qui ne veut pas être champion, comme l'a dit Romain. Certes, mais c'est un titre de champion. Et moi, je viens d'un pays où on gavote pas ce genre de choses. C'est-à-dire que les additionner, c'est un collier de perles en fait que le PSG doit faire, et rajouter le maximum de perles, et le reste on s'en fout. C'est-à-dire, moi je me rappelle quand j'étais adolescent de voir le Bayern enchaîner les titres et de voir les grandes fêtes qu'il y avait avec les où ils se jettent de la bière, etc., comme si c'était le premier titre, et on voyait tout ça dans une très belle ambiance. Moi, je trouve qu'en France, on fête pas assez les titres. Je veux dire,
on n'a pas le droit. Déjà ici, on n'a pas le droit.
Non, mais je veux dire, même en, il n'y a pas une ambiance de fête. Certes, là, tu as un contexte particulier où tu as la demi-finale qui arrive, et donc là, je comprends plus. Mais en fin de saison, quelle que soit la fin en Ligue des Champions, il faut que le dernier match au Parc soit une belle fête. C'est un titre, c'est important. C'est comme ça que les grands clubs ancrent. Parce que moi, par exemple, quand je vous dis, je voyais l'image du Bayern, j'étais pas en Allemagne. Je m'en foutais de savoir si en Bavière, dans une rue, les gens étaient sortis faire la fête. Mais j'avais cette image-là de voir le Bayern écraser le championnat. Et c'est ce que doit faire le PSG. Et c'est pas de sa faute si derrière, il y a des concurrents qui tombent les uns après les autres et qui font pas du leur pour aller plus loin, pour respirer et gratigner le PSG. C'est pas leur problème, en fait. Si le PSG, leur fonction, c'est de dominer ce championnat. Et moi, quand je disais inespéré, c'était pas le titre, parce que le titre, il n'est pas inespéré, encore heureux, il est logique, je dirais, comme là, je te rejoins. Mais là où je suis, c'était plus dans l'argumentation. Après, moi, inespéré, c'était le contexte du PSG, dans la manière dont ils ont gagné ce titre, de la force qu'ils ont montré. Moi, je trouve que c'est un PSG qui commence à refaire peur, et ça, c'est important. Parce que les PSG des saisons dernières, ils avaient Messi, ils avaient Neymar, etc., mais ils faisaient plus peur à personne. en fin de saison.
Alex, vas-y, c'est pour toi.
Non, je veux juste rebondir. Honnêtement, je suis assez d'accord avec toi, Gary. Moi, j'envie beaucoup, par exemple, quand je vois l'Ajax qui a gagné 59 titres de champion des Pays-Bas et qui célèbre toujours dans la rue avec les bus à Impérial et les machins. Évidemment, le Bayern qui a gagné 10 d'affilée, qui était mort de faim. Mais au Portugal, d'ailleurs, enfin aussi, tu vois, que ce soit Benfica, Sporting, Porto. Enfin, voilà. Année, mais... Après, tu vois, c'est, je pense qu'il y a encore une différence, si tu veux, dans ce genre de pays-là, et même on peut même aussi parler de l'Espagne par exemple, où en fait quand t'as 2, 3, 4 clubs qui peuvent prétendre au titre en début de saison, qui se battent un peu à armes égales et que du coup c'est une vraie bataille.
Le Bayern, c'est un bon exemple.
Non mais même au Portugal, quand il y a un seul équipe qui va au bout et qui a pas eu de concurrent, je peux te dire qu'elle l'a fait quand même. Hein.
Non mais en fait, c'est même aussi des concurrents par rapport au palmarès. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui oui, le PSG, par exemple, que ce soit au Portugal, en Allemagne, c'est le contre-exemple parce que le Bayern est tellement au-dessus. Mais au Portugal par exemple, c'est qui va en avoir 26 ou plutôt que 27, oui, etc. Enfin, il y a une vraie course aussi sur le 34. Long terme. comme en Angleterre d'ailleurs, hein, aujourd'hui il y a Manchester United qui est au-dessus et puis en fait Liverpool qui va aussi rattraper City.
En
termes de titres en général.
Excuse-moi.
Mais donc voilà, évidemment, c'est des contextes différents, c'est une culture différente. J'adorais que le PSG puisse célébrer ses titres comme ça a été le cas la première fois qu'ils l'ont gagné sous les Qataris, Trocadéro et tout le monde y va et tout le monde machin. Je pense qu'il y aurait aussi un engouement supérieur parce que du coup, il y a cette perspective de fêter le titre, d'avoir cette cohésion, cette communion un peu populaire. Malheureusement, c'est plus le cas. Je trouve que, je finirai rapidement, quand tu célèbres les titres au Parc des Princes avec eux qui sont sur un podium, sur la pelouse et puis le public qui est un peu dans les gradins, c'est un peu aseptisé, c'est pas bof quoi. Donc
je pense que victoire, une victoire en Ligue des Champions, je pense que ça peut justement je fais passer un message à la mairie de Paris. Je sais que les tensions sont vives entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris sur le dossier.
De toute façon, il va y avoir un élan populaire qui va venir dire.
Mais je conseille juste à la mairie, si elle veut gagner quelques points, t'en gagneras pas beaucoup, mais si tu veux en gagner quelques-uns auprès des supporters, une petite vraie fan zone, quelque chose d'un peu sympa organisé où on peut voir une vraie liesse populaire parce qu'elle existe, parce que tout le monde nous tombe dessus, elle existe. Il y a des supporters bien évidemment du Paris Saint-Germain et ils méritent aussi de pouvoir faire la fête ensemble et non pas que dans le Parc des Princes parce que ça arrange les autorités.
Oui. Non, c'est bon.
Alex, c'est bon. Pardon, j'ai mis, voilà, je voulais y aller. Quel goût il a ? Est-ce qu'il a une saveur
alors,
quand même ce,
alors,
ce...
Bien sûr qu'il a une saveur. Bien sûr qu'il a une saveur parce que depuis le début, vous commencez un peu à me connaître. Pour moi, l'important, c'est pas les chiffres, c'est pas le titre, c'est l'histoire que tu racontes. Qu'est-ce que tu dis des chiffres que tu vas avancer et qu'est-ce que tu dis du titre que tu vas remporter. Et ce titre-là, pour moi, il représente bien ta saison. C'est une saison qui a parfois été un peu galère, qui a été gérée. Puisqu'il y a 10 matchs nuls, mais dans les matchs nuls, un match nul comme ce week-end ou comme celui face à Clermont, c'est des matchs nuls qui sont gérés, que si tu avais mis ton équipe et que tu avais voulu absolument surdominer ta Ligue 1, c'est des matchs nuls qui seraient transformés en victoire. Et en ce sens, c'est pour ça que j'ai mis aussi le mot domination, en ce sens, je le trouve hyper important ce titre parce qu'il montre que tu as pu faire avec la Ligue 1 pour avoir le plus d'objectifs possibles qui soient remplis. Et donc, t'as géré, t'as fait avec les forces qui ont été les tiennes. S'il y avait eu une meilleure concurrence, t'aurais certainement adapté ton PSG à une meilleure concurrence, mais t'as fait ce qu'il fallait faire. T'as pas été là pour remporter un titre avec 70 points d'avance. Peut-être que ça sera le cas dans les prochaines années, parce que tu te mettras cet objectif-là.
70, c'est beaucoup quand même.
110, c'est beaucoup. mais là, t'as fait ce qu'il fallait pour gagner le titre et ne pas mettre en péril tout le reste. T'as pas été dans une optique de Christophe Galtier qui dit tous les matchs sont importants, il faut qu'on soit champion et à la J32, on a de la chance. Non mais c'est symptomatique. C'est hyper symptomatique parce que cette logique là, c'est la logique qui a amené notamment à une blessure de Kylian Mbappé pour un huitième de finale de Ligue des Champions, par exemple. Tu vois.
Donc la gestion, ça gère. C'est utile.
Mais bien sûr. Et donc en ce sens, ce titre symbolise ça. Ce titre acquis à la J, dans ce contexte-là, et 4-3 journées de la fin, ça symbolise ça. Donc pour moi, ça a une très très grande valeur. Et je disais aussi l'aspect domination. Bien sûr, le PSG était favori de la Ligue 1 quand ça a démarré.
Mais il ne faut pas oublier que le début, j'en parlais notamment dans ma chronique ce matin, le début de saison, c'est... Mais ce PSG, il est déclassé, là. Il y a Neymar, ouais. Neymar qui le s'en va, Messi qui s'en va, Mbappé, on ne sait pas. Verratti, il est parti, il n'y a pas de milieu. Luis Enrique, ça fait 4 ans qu'il a pu entraîner en club, on ne sait pas ce que ça va donner. Vous avez vu le nombre de recrues, ça ne va pas forcément tourner dès le début.
C'était et les recrues, on les connaît pas, d'où ils viennent.
C'était des interrogations. Est-ce que le PSG, bah le PSG donne plus d'objectifs en Ligue des Champions? Ça se trouve, c'est devenu un club d'Europa League. Non! C'est un club de Ligue des Champions qui est en demi-finale, qui est champion de France. On domine.
Et voilà. Et par ailleurs,
on domine et on va dominer en finale de Coupe de France aussi.
Alex, puis Gary.
Juste un mot par ailleurs de mémoire, tu prends la première place qu'à la 12e journée.
Ouais,
ça met du temps à se mettre en route.
Plan comptable, pire début de saison de l'ère qatari d'un point de vue comptable.
C'est vrai.
Mais ça veut rien dire.
Mais aujourd'hui, on l'a oublié parce que c'est devenu tellement. Enfin, la saison a tellement bien tourné que. Voilà.
On a été patient.
Il reprenait un bateau dans un sale état.
Oui.
Et il a été
c'est ça qui est intéressant, parce que il est ça lui revient bien évidemment de droit ce titre. Bien souvent, on disait Luis, c'est Messi qui a tenu la baraque. Je vous dis une connerie, ça, ouais. Il l'a pas souvent tenu. Mais voilà, mais c'est Neymar, c'est machin. Mbappé. Là, c'est le coach qui a construit ça.
Ça veut pas pour autant dire que les joueurs n'ont pas été importants, notamment Mbappé qui a eu de très bonnes stats en Ligue 1.
Les joueurs ont été importants, mais ils ont été cadrés, ils ont été gérés comme. Quasiment presque jamais dans l'ère qatari, et ça a débouché sur un titre important malgré tout. Et moi, je pense que je suis d'accord avec toi, et je l'ai dit au début, ça qui a toute sa valeur, parce que le contexte, il était très compliqué. On n'attendait rien de ce Paris Saint-Germain là qui était en transition. On se disait, voilà, minimum le titre de champion de France. On est loin du compte quand même, parce que c'est loin d'être le minimum. Il y a le titre du champion de France, t'as une demi-finale de Ligue des Champions, t'as le trophée des champions, et t'as la finale de Coupe de France. Et donc, dans ce contexte là la valeur de ce titre, pour l'instant, c'est un premier étage, et on espère qu'il y en aura d'autres.
Oui, Alex.
Je pense quand même, au-delà du fait que on n'attendait rien de ce PSG en début de saison, alors c'est un honte très général, hein, parce que je m'inclus pas dedans personnellement, mais il y a certaines personnes aussi qui se réjouissaient par avance de pouvoir un peu constater les échecs de ce PSG-là.
Tous les supporters des autres clubs, ils attendent qu'un déclassement du Paris Saint-Germain. Et c'est normal, hein, puisque un déclassement du Paris Saint-Germain, ça veut dire que eux vont peut-être augmenter. Enfin, s'ils font le taf,
ils veulent pas
faire le taf non plus. Mais
pour le coup, je parle même pas que de supporters. Hein. Je parle aussi d'observateurs, de spécialistes, de médias.
Mais pour revenir sur la valeur, l'année dernière, c'est un truc historique. On est premier de la première à la dernière journée. C'est un truc qui est historique, factuellement, c'est historique. Mais la valeur du titre de l'année dernière, par rapport à celle de cette année, je pense qu'on est tous d'accord. En fait.
Ah oui, bah moi, cette année, je me suis régalé à voir comment a été construit ce titre.
c'est pas juste les chiffres, c'est pas juste la ligne sur le palmarès. Ce qui importe, c'est l'histoire que tu racontes. Et l'histoire que tu as racontée cette année, elle est hyper sympa.
En tout cas, le pas, oui.
Non, pardon, oui, c'est vrai, mais au final, il y a très peu de gens qui retiendront cette histoire-là. Enfin, c'est un truc qui s'efface.
Ceux qui l'ont vécu, c'est hyper important.
La première pierre de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, c'est pas mal quand même.
Oui, non, mais bien sûr.
C'est pas le trophée des champions qui te met une pierre contre Toulouse.
Évidemment. C'est juste que je. Pour moi, en tout cas, à titre personnel, pour l'instant, je ressens pas non plus un truc de. Après, c'est une généralité depuis des années, mais un truc de fou autour de ce titre-là. Après, c'est encore une fois, oui, une fois qu'on décrypte, quand on se plonge dedans, etc. C'est évidemment, ça représente quelque chose. Il y a une belle histoire qui a été racontée, etc. Mais voilà, c'est
sûr que quand tu vois les tifosi de l'Inter Milan qui sont hystériques en train de faire tout et n'importe quoi depuis 3 ou 4 jours, depuis le titre,
Tu vois, typiquement, l'Italie, c'est un exemple parfait de ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'Italie, tu avais la Juve, l'AC Milan, l'Inter, la Roma, des clubs qui historiquement,
la Juve, ils ont été un moment tout seuls aussi. Hein.
Oui, ils ont été un moment tout seuls, mais en fait, maintenant que l'AC Milan et le Milan sont revenu, en fait, il y a toujours ce truc. L'Inter Milan, ils ont gagné le titre il y a 2 ans quand même. Ils ont été finalisés avec des champions l'année dernière. Tu vois, ils pourraient se dire, voilà. Et en fait, il y a une telle concurrence historique entre les clubs qu'en fait, le titre, forcément, c'est un accomplissement de fou, quoi.
Est-ce que c'est pas de la faute de Monaco, Marseille ou Rennes? Alors, Monaco, c'est encore le seul suiveur à peu près.
Oui, c'est vraiment.
Ils collent plutôt pas mal. Enfin, ils sont toujours dans les 2-3.
Ils sont loin. En termes de points, ils te collent pas, ils sont derrière quoi.
C'est un des premiers trucs que j'ai dit par ailleurs, que c'était aussi une saison où les concurrents ont pas été au niveau.
Mais après, à côté de ça, on est donc sur le 10e titre.
Ce podcast quelquefois.
On est donc sur le 10e titre du PSG depuis l'arrivée du Qatar. L'exploit de Lyon d'en avoir remporté 8 de suite, on en est encore loin. On a fait 4, 3, et donc là, on est sur une série de 3. c'est pas une domination domination de la Juve qui, le Bayern qui restait sur 11 de suite, la Juve qui en a mis 9 ou 10 de suite, cette domination de allez là il y a une période c'est que nous. Ouais non mais OK, mais tu
j'ai dit à l'étranger oui, notamment dans les journaux portugais, ce que j'ai vu c'est le 12e titre du PSG.
Oui mais t'en laisses.
10 c'était sur combien d'années
10 depuis de, depuis
2000. 10 sur 12 ans.
Ouais. 13 ans.
10 sur 13. Ah, sauf quand t'en as laissé en route.
Ouais, ben voilà. Mais ça, si c'est pas une domination, Romain, je sais pas.
Non, mais, dire, mais bien sûr que c'est une domination. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Ça a pas le même impact que Lyon qui a gagné 11 de suite.
Ouais, 8-2. Ouais. Enfin, c'est quand même un truc, tu vois. C'est un truc. Tu... Ouais, et choper ce record-là, moi, il m'intéresse de ouf, tu vois. Bah, eux.
On va vous l'avez entendu. Ça se trouve, on sera là dans 5 ans. C'est ça, c'est pas bah, bon, le record des Lyonnais pour parler d'aller chercher ce titre. Les amis, on fait une première pause dans cette tribune. Bravo Paris Saint-Germain pour ce titre de champion de France. On va parler de la Ligue des Champions. Vous inquiétez pas, ça arrive, c'est dans quelques minutes. Mais d'abord, on parlera aussi d'un garçon qui a prolongé. À tout de suite.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu. Au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer.
Bonjour.
Robin Berneau.
Chaque matin, on vous propose les pépites de la rédaction. Ce sont ces histoires incroyables, étonnantes ou bien encore insolites qui se passent tout près de chez vous et dont seul France Bleu est au courant. Alors pour avoir les meilleures histoires à partager chaque matin avec vos collègues, rendez-vous demain de 5 à 6.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5 heures.
100% PSG. La tribune.
Quoi, j'espère vraiment qu'on va retourner Paris si Paris gagne la Ligue des Champions. Voilà,
mais on a
j'étais
déjà.
J'étais en train de parler de ça en fait. J'étais en train de discuter de ça et voilà. Mais je me suis fait prendre par la lumière rouge.
Mais tu sais
que
moi j'ai déjà des potes qui m'ont dit après la victoire à Barcelone, on va sur les champs ou pas? Donc c'est qu'il y a.
Mais les gens ne savent même pas.
C'est pas venu et ça s'est pas fait.
J'ai une petite anecdote.
Mais c'est des trucs qui pourront peut-être se faire naturellement.
J'ai un journaliste espagnol du Chiringuito d'ailleurs. On passe le bonjour. Bah ouais, qui vient à toutes les conférences de presse.
Il est là.
D'ailleurs, c'est le plus sympathique qu'on a eu jusqu'à présent, c'est donc ça. On le salue. Et il me demandait, mais si le PSG gagne, on va où? J'ai dit, bah écoute, bonne question.
Le PSG gagne pas souvent, donc on sait pas là-dessus.
J'ai dit, écoute, normalement, 14e, si pas normalement les victoires en France, c'est sur les champs, quoi.
Ah, ouais. Sur les champs.
Depuis 98, etc. Il m'a dit, ah, mais vous avez pas une place? Parce que nous, on a place à Decibeles. Dès que le Madrid, dès que le Real gagne,
les champs,
on y va et tout.
C'est une longue place, quoi.
Et je lui dis, non, mais t'inquiète pas. Même si le PSG est sacré, parce que c'était samedi soir,
ne,
ça sert à rien que t'ailles sur les champs. Tu vas pas voir grand monde.
Non, mais par contre, il y a des fumigènes qui ont été craqués sur le quart de finale. Il y en a qui sont déjà partis sur les champs.
Ouais. Non, mais là, déjà, je pense que la qualif, si qualif en finale, il y a, je pense que les gens, il y aura un peu de monde sur les champs.
J'en suis convaincu.
Oui, tout à fait, également.
Je vous rejoins.
Mais tout à fait, mais j'en suis ravi.
Très bien. Les amis, très rapidement, mais je veux quand même qu'on en parle dans ce programme avant de parler de Dortmund, bien évidemment, parce qu'on est là aussi pour développer l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité du Paris Saint-Germain, c'est ce moment un peu d'affolement dans la tribune de presse. Il est 20h53. On voit du personnel du Paris Saint-Germain qui vient placer en quatrième vitesse un podium. On voit mettre trois rangées de lance-flammes derrière et des confettis. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Ils font une répète pour le titre en cas de victoire, on s'est dit.
C'est ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, Michel Montana, le speaker, dit, mesdames et messieurs, nous allons l'accueillir dans quelques instants. Je le fais très mal. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Et là, affolement général, et je ne sais plus, c'est toi?
Ouais.
Qui nous dit, ouah, c'est Warren, à tous les coups, c'est Warren. Et donc là, affolement, et effectivement, on voit arriver Nasser Al-Khelaifi accompagné de Warren Zaïre-Emery. Petite photo, des petites flammes, pssht, voilà, hop là, bravo, photo. Jusqu'en 2029, Warren Zaïre-Emery est donc au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Le Paris Saint-Germain, l'avenir du PSG, appartient-il au Titi du PSG? Et quand je dis au Titi, je parle pas que de celui-ci, mais finalement des autres, parce que quand j'entends Luis Enrique nous parler de toute l'admiration, en tout cas de l'envie qu'il a de travailler avec un garçon comme Mayulu, parce qu'il voit qu'il y a de la matière première ultra intéressante, est-ce que l'avenir appartient à ces jeunes-là? Je me retourne vers toi, Romain. Déjà, bonne nouvelle.
Ouais, bien sûr.
Prolonge.
Oui, on s'y attendait, mais
oui, mais c'est
bien sûr bonne nouvelle.
Ce qui est sûr, c'est
un petit bémol sur le 2029.
Oui,
le fais tout de suite ou pas?
Bah oui, mais t'es tout le temps en train de.
Il y a quelques infos.
C'est pas possible.
Il y a quelques infos qui sortent comme quoi c'est un contrat de 2028 plus 1.
Ils vont la refaire?
C'est pas que t'as eu un historique il y a 2 ans avec un maillot où il n'y avait pas la bonne date, mais ça serait malvenu quand même de refaire la même erreur pour essayer de de montrer que tout est géré, etc. C'est, je trouve que c'est, bah, on, Nasser montre qu'il ne, n'apprend pas forcément de ses erreurs après ce truc-là.
En tout cas, les fautes du maillot 2029 sont déjà sur le côté.
Ouais, voilà, on attend en tout cas la réponse du Paris Saint-Germain pour nous expliquer exactement
ce qu'il aurait la dernière année qui est en option et toutes les parties seraient accordées pour que l'option soit quasiment automatiquement levée. Ça me fait penser à une histoire, moi. Mais bon, après, je sais pas.
Ouais, ça ressemble à quelqu'un.
Du coup, c'est déjà une très bonne nouvelle que Warren prenne de l'importance déjà dans la longueur sur le projet, parce que c'est un joueur clé. Pour moi, on pourra rediscuter de son profil et de l'importance qu'il doit avoir dans l'équipe. C'est pas une superstar potentielle de l'équipe. C'est un super joueur de complément. Même dans un milieu de terrain, c'est un très bon numéro 2 ou numéro 3 qui va faire que ton équipe va tourner. Par exemple, en ce moment, si Vitinha est si fort en 6, c'est aussi parce qu'il y a Warren qui peut venir le compenser de temps en temps quand il monte. Donc, c'est un joueur qui est essentiel et c'est très bien qu'il soit inscrit dans la durée, encore plus parce que c'est un mec qui est formé chez nous.
Effectivement, le petit gars de Montreuil, on rappelle, 18 ans pour Warren Zaïre-Emery. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'il prolonge. Est-ce que l'avenir appartient au Titi du PSG, Alexandre Aflalo ?
Oui et non.
Pourquoi ?
Voilà.
Merci. Au revoir.
Merci. Je serai tous les jours
au point virgule.
Voilà, au grand point virgule. Non, oui et non. Oui, car il me semble assez clair que le PSG veut en tout cas opérer ce virage-là, a mis des moyens dans sa formation, que avec le campus de Poissy, ça va forcément avoir un impact très positif sur la formation parisienne qui profite déjà d'un vivier absolument exceptionnel. Mais peut-être pas dans l'immédiat, et je m'explique parce que au-delà de donc Warren Zaïre-Emery qui est un joyau brut au-delà de Warren Zaïre-Emery et de Presnel Kimpembe quand il daignera rejouer au foot, on l'espère bientôt parce qu'on l'aime beaucoup et ça pourrait corriger les problèmes dont tu parlais, Gary, de défense centrale. Derrière lui, je sais pas qui va y avoir qui peut vraiment s'imposer dans l'équipe première. Alors, j'ai beaucoup d'affection pour Seni Mayulu. J'espère qu'on pourra le voir de plus en plus souvent. Et Luis Enrique a l'air de lui faire confiance et de lui donner du temps de jeu. Pour l'instant, je n'arrive pas trop à jauger de quel bois il est fait. Yoram Zague, c'est un peu pareil. C'est un joueur qu'on a pour l'instant pas beaucoup vu, qui est encore un peu tendre, qui va peut-être aussi profiter de cette espèce de trou d'air laissé par Nordi Mukiele sur le côté droit, mais pour l'instant, on ne le voit pas trop. Ethan Mbappé,
Emen Kari qui va
Eman Carey qui va revenir, c'est pareil, il va falloir le tester dans la rotation, ça va être important. Donc Ethan Mbappé, évidemment, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant, je sais pas s'il aura une grande carrière au PSG. Et en fait, derrière ça, qui y a derrière ça ?
Xavi Simons, il est considéré comme titi ou pas ?
Bien sûr.
Bah oui, pour le coup.
Bien sûr.
Oui. Bon, très bien.
Il va revenir, voilà.
T'en as deux.
Donc déjà, si on a effectivement Xavi Simons,
tu viens de détruire son argumentaire. Il était bien parti, là, non, toi. Quel coquin, celui-ci. Xavi Simons, ça compte ou pas ?
Alors effectivement, c'est-à-dire que dans le 11 l'année prochaine, tu auras potentiellement Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons. En remplaçant, tu auras peut-être Eman Carey, Seni Mayulu. Yoram Zague qui
ça serait énorme déjà qu'au Paris Saint-Germain t'es ça.
Mais là tu me dis est-ce que l'avenir appartient au Titi ? Est-ce que l'avenir appartient au Titi ?
Non.
Et voilà. Et donc juste effectivement dans les générations qui suivent, à part Ibrahim Mbaye qu'on va beaucoup suivre dans les prochaines années, pour l'instant moi j'ai pas de déco en tout cas d'un mec fou quoi. Donc voilà.
Gary, vas-y parce que tu as le sourire en coin depuis
alors,
tout
non.
à l'heure. Non. Voilà.
Non,
donc tu rejoins
y a pas de
le
oui ou non.
Non
d'accord.
Oui mais bon, c'est un oui.
Oui
mais.
Oui. Parce que t'as le Paris Saint-Germain dans le cœur, peut-être. Mais non, c'est le souhait, c'est le fantasme de beaucoup de supporters. Tu sors des joueurs, mais non, tu ne peux pas t'appuyer que sur ça. Ça ne peut pas être l'avenir du l'état. Tous les titis ne peuvent pas être l'avenir du Paris Saint-Germain. Si tu en as deux dans un 11 titulaire, c'est déjà énorme. Warren Zaïre-Emery, il a suscité l'excitation qu'il a suscité. Parce que c'était extraordinaire dans le sens premier du mot. C'est-à-dire que ça arrive pas tous les jours. Un mec comme Warren Zaïre-Emery qui sort du centre de formation. Donc non, il faut pas mettre cet espoir-là sur ces jeunes-là. C'est un peu des coups de poker malgré tout. Enfin, je veux dire qu'on voit le Barça ou qu'on voit le même Benfica qui sort beaucoup 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 de joueurs. Enfin, c'est rare qu'il y en ait deux par saison qui sortent. Il y en a un toutes les deux, trois saisons. Et il y en a un sur ceux-là qui
va partir vite.
qui peut partir vite, qui s'intègre dans l'équipe.
Au minimum.
Mais après, tu attends 5 ou 6 ans pour qu'il y en ait un autre qui s'intègre dans l'équipe. Donc moi, ta question était un petit peu forte.
Ouais, mais...
Qu'il y en ait déjà un ou deux dans le 11 titulaire, je trouve, avec Xavi Simons et Warren Zaïre-Emery, je trouve ça déjà énorme.
Oui, Romain.
Alors, moi, ça va être, ma réponse, ça va être pas que. Il doit pas y avoir que les Titi qui prennent le pouvoir.
Parce que c'est un peu l'envie.
Au Paris Saint-Germain.
Enfin, ils ont envie que ça soit jeune.
Alors, j'entends.
Mais il faut que ce soit les meilleurs.
Ça va se rapprocher un peu de ce que dit Alex. J'entends que, et c'est très très bien parce que les Titi, c'est la garantie que l'ADN PSG reste. Et donc, il faut pas perdre de vue cet ADN. C'est-à-dire, une ADN où, quand tu es formé au Paris Saint-Germain, tu sais que les matchs face à Marseille sont importants. Tu sais que, il y a un savoir-faire, il y a une domination nationale à avoir.
Tu peux transmettre cet ADN sans forcément et être formé au club. Ce serait aussi un des enjeux transmettre cet ADN Paris Saint-Germain, transmettre les jeux, les matchs qui sont importants, etc., aux joueurs qui sont grandi en France,
mais,
qui n'ont pas
souvent,
grandi au PSG.
Mais souvent, ça passe, le principal moteur aussi, ça peut passer par cette jeunesse-là.
Donc, ou des mecs comme Marquinhos qui ne sont pas formés là et qui ont complètement cet ADN-là.
Mais après, il est arrivé tellement jeune, Marquinhos, que c'est vrai, tu vois, c'est... Mais il ne faut absolument pas se dire on va faire une équipe que de Titi. C'est non. La plupart des équipes qui ont fait des équipes de formées au club sont des équipes qui ont été contraintes de le faire. Je pense notamment.
C'est le compas un rond. Salut le FC Barcelone.
Le FC Barcelone, en ce moment, c'est un très très bon exemple. Lyon, au milieu des années 2010, quand ils sortent les Tolisso, Lacazette, Fekir, Ferry, Umtiti, tout ça, c'est parce que Lyon n'a pas d'argent à ce moment-là. Ils doivent rembourser le stade, ils ne peuvent pas faire d'indemnité.
Ou alors, tu as une génération exceptionnelle.
Ils se tournent. Ouais, mais la génération exceptionnelle, ils l'ont aussi provoqué. Ouais. C'est aussi provoqué parce que tu as des mecs que tu es obligé de mettre sur le devant de la scène et t'en as qui progressent. Donc forcément, ça tombe bon pour toi. Maintenant, il faut en avoir 2, 3, 4, 5 dans l'effectif, global. Et après, en plus, le PSG, ça a toujours été un club de stars. Ça a toujours été un club de je vais mettre de l'argent sur tel mec, je vais mettre de l'argent sur telle pépite étrangère, brésilienne notamment. Il faut essayer de faire en sorte. Je lisais une stat qui est assez folle. Il y a, dans les 5 grands championnats, il y a un joueur sur 10 qui vient de la région parisienne.
C'est SoFoot qui a sorti ça, ouais.
Complètement dingue. Un joueur sur 10 dans les 5 grands championnats vient de la région parisienne.
D'ailleurs, je vous le conseille, ça sort le 2 mai. Il y a un spécial joueur de France.
J'aimerais bien savoir, dans ces 1 joueur sur 10, le profil qu'ils ont et quelle est leur qualité, etc.
C'est pas ça la question, c'est que c'est très difficile.
1 million de joueurs à travers le monde, mais s'ils ont tous le profil,
quand tu viens du même endroit, être professionnel, faire partie d'une élite, d'être professionnel, c'est déjà complètement dingue. Et d'avoir une personne, un mec sur 10, c'est-à-dire que en gros, 1 sur 10, c'est un titulaire.
T'as les mêmes problèmes qu'ont des pays comme le Brésil, où ils ont exactement le même problème que ces joueurs-là. C'est-à-dire que c'est des joueurs très qui ont tous quasiment le même profil, que tu cherches à amener des joueurs dans un marché et que tu cherches pas à développer leur qualité de football, etc.
Donc c'est un joueur d'élite, on est plutôt bien quand même.
Comment ?
De joueurs d'élite, on est quand même plutôt bien.
Ah ouais, non, je dis pas le contraire.
En Ile-de-France. Donc t'as des joueurs d'élite, mais t'as une densité, donc c'est quand même assez. Ça suffit quoi.
Un homme veut prendre la parole dans cette émission. C'est Alexandre Aflalo, parce qu'il est très posé et il me fait des petits signes genre.
Non, comme mais ça, pour rejoindre ce que disent mes deux camarades qui sont des personnes brillantes au demeurant.
Tu vas arrêter de faire la Suisse.
La Suisse. Et
je pense que l'enjeu.
C'est ce qu'a dit Luis Enrique. La phrase et le mais. Et après le mais, c'est ce que ça veut dire.
Je pense que l'enjeu pour le Paris Saint-Germain, en fait, c'est déjà ce qu'il a un petit peu accompli cette saison. C'est pas tant d'être une usine à titulaire pour son équipe, mais de pouvoir faire la place à ces jeunes talentueux si jamais ils venaient à éclore au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des Maignan, des Coman, des Diaby, de tous ces mecs-là qu'on regrette beaucoup aujourd'hui, c'est que ils ont eu leur poussée de croissance entre guillemets à une époque où le Paris Saint-Germain fermait complètement les vannes de l'équipe première, où tu avais tellement de titulaires hyper puissants que de toute façon tu pouvais pas aller les chercher et que les entraîneurs faisaient pas les choix forts que fait Luis Enrique de mettre sur le banc les mecs qui pouvaient prendre la place de ces jeunes-là et entraver leur développement. Warren Zaïre-Emery, encore une fois, c'est une exception. Warren Zaïre-Emery est titulaire au Paris Saint-Germain à 17 ans et
en Mayoulou, c'est un bon exemple.
Mayoulou, s'il a du temps de jeu la saison prochaine, on verra le temps de jeu qu'il a la saison prochaine. S'il arrive à avoir pas mal de temps de jeu la saison prochaine et à pouvoir se développer, ça sera aussi hyper important dans la place qu'il pourra avoir.
Mais le PSG recrute le milieu dont tout le monde parle et que tout le monde attend, le Mayoulou, il a plus.
Mayoulou, il est plus attaquant déjà.
ce qui est assez intéressant, c'est que t'es jeune au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, c'est pas ta référence. Enfin, ça, c'est ta référence c'est parce que c'est Warren Zaïre-Emery, c'est ton rêve. Parce que c'est rêve, c'est de te dire si tout se passe bien, si je suis hors du commun, je vais faire un Warren Zaïre-Emery. Par contre, un Mayulu, cette saison, je parle même pas de la saison prochaine, cette saison. Mayulu, cette saison, c'est des titularisations en Ligue 1, c'est des matchs en Coupe de France, c'est des minutes.
Ça,
c'est des minutes. Non, il n'y a pas toujours eu ça.
Colin Dagba,
c'était forcé, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution
au remplacement. Là,
tu peux faire sans Mayulu cette saison. Mais pourtant, tu lui donnes sa chance. Et donc, c'est ça l'idée. C'est que tu donnes ta chance à des jeunes et après, ils prennent le wagon ou pas, tu vois. Mais juste, tu leur as donné ta chance.
Tu vois, typiquement, pour revenir là-dessus, moi, ça me pense un peu au cas d'Edouard Michu. C'est-à-dire que t'avais Xavi Simons qui était un peu, lui, qui était un peu au-dessus de la mêlée. Et encore, quand il était au PSG, c'était pas non plus flagrant. Et puis, Edouard Michu qui était plus, on lui donne sa chance parce qu'on sait qu'il est un peu aussi au-dessus. Il est un peu dans ce groupe-là des joueurs qui sont à l'aise. Mais, tu vois, pareil, il y a Jadai Bichabou, c'est un peu des mecs comme ça. Donc, à voir si Mayulu, encore une fois, va réussir à saisir cette chance-là, à saisir un peu le temps de jeu qu'il va avoir, et puis s'il doit avoir une carrière au PSG, qu'il l'ait, quoi.
On termine avec toi, Gary, et ensuite, il sera temps de parler de Dortmund.
Pour conclure, je trouve qu'on fait beaucoup de faux procès au Paris Saint-Germain par rapport à sa formation. Et on parle et on énumère tous les joueurs qui ont explosé ailleurs, mais ça arrive dans tous les clubs, dans tous les gros clubs qui ont un centre de formation.
Mais on est traumatisé, monsieur.
On a un joueur qu'on a laissé partir
et qui nous a marqué un but en finale de Ligue des Champions.
Ça arrive à tous les clubs, le nombre de joueurs du Real Madrid qui ont été formés là-bas et qui leur ont planté un nombre de buts incalculable. Au Barça, j'en parle même pas. Grimaldo, là, qui est au Bayern Leverkusen et qui est extraordinaire au Bayern, et il est formé au Barça. Et bon, il y en a plein, j'en dis un, mais il y en a.
Non, mais c'est un milliard. En fait, les
Benfica avec Bernardo Silva, il a pas eu sa place. C'est-à-dire qu'il était en réserve, parti à Monaco, et c'est là qu'il a explosé. Enfin, je veux dire, ça arrive à tous les clubs formateurs et tous les clubs formateurs qui veulent gagner des titres et qui ont cette pression-là. Donc, en fait, ça dépend du coach. Si t'as un coach qui fait confiance aux jeunes et qui donne l'opportunité, qui fait tourner, etc., t'as plus de chances de faire appel à ces jeunes-là.
Les amis, débat passionnant sur les Titi du Paris Saint-Germain. Merci à vous. Et je sais, vous êtes en train de nous dire, il y en a là, vous savez quoi, qui vont écouter ce podcast. Alors, ceux qui vont regarder en vidéo, on vous salue. On n'hésite pas, bien évidemment, à nous mettre les petits pouces qui vont bien. Coucou, salut. Et puis, il y a ceux qui vont prendre la bagnole. Il y a les 3800 supporters qui partent du côté de Dortmund. Et qui vont s'écouter tous les podcasts, alors des copains qu'on salue, les gens de culture, les gens de culture PSG, les gens de Paris United, les gens du club des 5 aussi, pour avoir plein d'avis différents. Et puis on reçoit, je vous le jure que c'est vrai, on reçoit des messages. Je suis sur la route, on est sur la route avec les potes, on est en train de s'écouter le podcast tranquille. Sur des déplacements, je l'ai déjà vécu. Je me suis retrouvé un jour en train d'acheter un ticket de métro, je ne sais plus dans quelle capitale européenne, et d'avoir un gars qui se pose à côté de moi qui dit « Je viens de t'écouter il y a 2 heures dans la bagnole, et là maintenant t'es à côté de moi ». Je me retourne, je fais « Mais qui êtes-vous »
T'es eu le couple aussi à Saint-Sébastien là.
Mais oui, le couple. Ouais, ça, un jour, je vous le raconterai à nouveau. Mais le couple, voilà, que je salue, je crois que c'était Sébastien, le prénom du garçon. J'espère que madame va bien, j'espère que la grossesse se passe bien. C'était improbable. Bref, voilà, mais ça, un jour je vous la raconterai. Mais juste vous dire, je sais que vous voulez parler de Dortmund, mais il y avait l'actualité, le championnat, ce débat sur les Titi est passionnant. Et désormais, bien évidemment, mercredi, on y va, on va au charbon, c'est la guerre. Face à Dortmund, demi-finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va aller affronter le 5e de Bundesliga, qui a perdu 4-1 ce week-end face au RB Leipzig. Je vous rappelle que Dortmund, on les a eu dans notre poule, dans la poule de la mort. C'est eux qui ont terminé devant nous. On les a battus 2-0 en Champions League, bien évidemment, au match aller. 1-0 au match retour. Paris, bien évidemment, débarque, ça sera demain, on part tous demain, la caravane Paris Saint-Germain se met en branle demain matin pour partir du côté de l'Allemagne. Le match sera à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris, dispositif énorme, on attaque à 18h, 20h, 200% PSG, le mag avec Pierre Clément, derrière 20h, minuit, avec Miguel Derain, Fabrice Pancrate, Eric Rabé, Sandra Tana, vous les auditeurs, on sera en YouTube live, vous n'hésiterez pas bien évidemment à mettre plein de commentaires. Bref, ça va être la folie. c'est bon, j'ai fait la pub. Maintenant, on va parler de cette rencontre de l'équipe d'Edin Terzic qui va affronter le Paris Saint-Germain. Je vais vous poser la question, messieurs. Est-ce que le Paris Saint-Germain est le grandissime favori de cette rencontre? Puisque là, moi, depuis ce week-end, depuis que j'ai entendu que Leipzig en avait collé 4 à cette équipe de Dortmund, c'est bon, j'ai l'impression que tout le monde a les bras en croix. Genre, c'est bon, on va tous à Wembley, c'est terminé. Non, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu la tendance. Est-ce qu'il n'y a pas danger là?
Et il n'y a rien de plus dangereux, bah, y a rien de plus dangereux que de se voir en finale avant d'avoir joué les matchs. Donc, est-ce que Paris est favori? Oui.
Pourquoi?
Mais parce que c'est le champion de France et l'équipe de Mbappé qui affrontent le cinquième de Bundesliga. Factuellement, tu es favori. Au-delà de ce constat très simple, le Dortmund a jamais éliminé le PSG sur une double confrontation en Ligue des Champions. C'est déjà arrivé 2 fois, plus en phase de groupe. Je crois pas que le PSG ait déjà perdu en phase de groupe contre Dortmund. Arrêtez-moi si je me trompe. La seule défaite du PSG contre Dortmund, c'était le en 2020. Voilà. Donc
le match aller
en 2020, les 2 buts de Haaland, machin. Donc déjà ça c'est dit. Maintenant les matchs, il va falloir les jouer. Il va falloir les gagner. Il va falloir marquer plus de buts que l'adversaire, comme on dit. Et ce sera pas simple parce que ce sera aussi une demi-finale de Ligue des Champions pour Dortmund. Et le Dortmund de la demi-finale de Champions League, ce sera peut-être pas le même Dortmund de la phase de groupe, du premier match de la phase de groupe. Et peut-être qu'ils auront un surplus. Et peut-être que je sais pas, Niklas Süle aura perdu 15 kilos avant le début du match. Voilà.
c'est un petit tacle.
Vous l'avez vu, Niklas Süle ou pas?
Oui, il est gros, lui.
Qu'est-ce que vous avez contre les gros? Attention, hein.
Moi aussi, je le suis.
Sauf que nous, on n'est pas footballeurs professionnels, quoi.
Skriniar, je pense qu'il serait sympa de voir une course aux 100 mètres entre Skriniar et Süle. Ça peut être sympa. Du divertissement.
Gary, est-ce que le Paris Saint-Germain est le grandissime favori de cette confrontation ou est-ce qu'on est en train de s'enflammer et il y a danger?
Je pense pas que le fait qu'on s'enflamme va apporter du danger au Paris Saint-Germain, mais je pense que le Paris Saint-Germain est favori. C'est une certitude. Après, ce statut, qu'est-ce qu'il apporte, je sais pas trop. Mais ça dépend sur quel Dortmund le PSG va tomber. Faut savoir que Dortmund aujourd'hui, il a autant de visages qu'il a de matchs depuis le début de la saison. C'est un Dortmund qui a pas perdu contre le Bayer Leverkusen, qui a fait 2 matchs nuls.
La meilleure équipe du championnat allemand cette saison.
Qui est champion. C'est un Dortmund qui a battu le Bayern, Munich. C'est un Dortmund qui élimine l'Atlético de Madrid. Donc ça dépend contre qui tu tombes, parce que Dortmund ils ont beaucoup de visages différents et ils peuvent être dévastateurs en contre et ils peuvent très bien exploiter les espaces du Paris Saint-Germain selon leur degré d'implication et leur degré d'implication défensive tout simplement. Donc moi je pense que le Paris Saint-Germain est favori, mais attention à Dortmund. Au Westfalenstadion, parce que c'est toujours dangereux.
Ça va être effectivement dangereux, bouillant, le mur jaune, etc. Les 3800 supporters parisiens qui vont donner la leçon à ce mur jaune, parce que ça avait déjà été le cas lors des matchs de poule. Est-ce que tu as entendu les arguments des copains romains? Est-ce que toi aussi, tu penches sur ce côté favori, mais...
Le Paris Saint-Germain est le facteur déterminant de cette double confrontation. Si le Paris Saint-Germain joue à son meilleur niveau, le Paris Saint-Germain passe. Si Dortmund joue à son meilleur niveau, Dortmund n'est pas sûr de passer.
C'est vrai.
Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu es favori, ce qui est logique. Et il y a aussi un autre truc. Quand il y avait le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions, si on avait le choix d'une équipe qu'on considérait comme la plus faible des 8, c'était le Borussia Dortmund. Donc, il y a un moment, on peut essayer de prendre le problème dans tous les sens. C'est logique que le Paris Saint-Germain soit favori.
Mais la logique, tu vois, ils sont en demi-finale. Donc.
Ouais, la logique. Mais parce que l'Atlético à l'extérieur cette année, c'est. Enfin, bref, mais c'est autre chose. On va pas faire un débat. Mais le fait est que donc t'es favori. Mais le fait d'être favori, ça te garantit en rien d'être qualifié. Tu vas jouer 4 mi-temps. Tu vas jouer 4, comme face au Barça, tu vas jouer 4 mi-temps en 6 jours avec l'aller le mercredi, le retour le mardi et pas en 8 jours. Tu vas les jouer en 6. T'as pas de match de Ligue 1 entre les deux. T'as 4 mi-temps à préparer. Et donc, c'est pas parce que tu vas gagner ou perdre ton aller que tout sera joué. L'important, c'est de préparer au mieux ces deux matchs-là qui en sont un seul séparé par 6 jours.
Et c'est le meilleur contexte pour le Paris Saint-Germain. On a vu qu'ils adorent jouer comme ça parce que trop de temps entre les deux matchs, ça n'a jamais porté de choses positives. Et
même tactiquement, l'approche tactique du match aller de Luis Enrique où il s'est un peu trompé dans sa composition de départ est complètement différente de celle du match retour où là, il a tordu Xavi là-dessus, tu vois. Donc, c'est
faut le faire.
Et le retour
faut,
au parc.
Et retour, et t'as le pacteur retour au Parc des Princes en plus. Il faut le faire. Rien n'est fait, parce que si le Paris Saint-Germain arrive et n'y va pas, bah, ils vont tomber face à une équipe qui va. Il y a des feux follets à Dortmund. Il y a des mecs lents derrière, mais il y a des mecs, c'est des bourbiers. Hein.
En transition, ça peut.
Adeyemi, c'est un bourbier. Enfin, il y a des. Même après, ils ont même des profils.
Jadon
Sancho qui revient bien. Il y a devant Füllkrug, c'est chiant. En fait, c'est chiant.
Füllkrug de la tête, moi, il me fait flipper un peu parce que effectivement, c'est. Mais donc, vu qu'on le PSG est nul de la tête.
Mais donc, c'est voilà, il faut le faire maintenant. À ta question, le Paris Saint-Germain est le facteur déterminant. Donc le Paris Saint-Germain, s'il aborde ces deux matchs, ces quatre mi-temps sérieusement, il se qualifiera pour la finale de Ligue des Champions.
Mais est-ce que ça ne nous met pas trop de pression, justement, à ce Paris Saint-Germain, parce qu'on se connaît par cœur. Ouais. Là, on nous a dit il n'y a pas d'objectif, on est tranquille, Nasser Al-Khelaïfi après la Real Sociedad a dit, les garçons, profitez-en, il faut être tranquille, mais là, t'as une voie royale pour aller quand même poser tes fesses à Wembley le 1er juin prochain.
Et c'est là, en fait, où encore une fois, Luis Enrique sera aussi très important, Luis Enrique et son staff. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils ont brillamment réussi à aborder le défi psychologique qu'a représenté le quart de finale face au FC Barcelone avec cette défaite à l'aller, avec ce but rapide encaissé au retour et avoir réussi à complètement s'approprier ce match et à créer une atmosphère positive autour de ce match dans le groupe. Là, maintenant, il va falloir changer de logiciel et avoir cet état d'esprit conquérant en étant l'équipe que tout le monde attend. Et en fait, c'est un piège dans lequel a pu tomber le PSG aussi par moment, mais encore une fois, c'était différent du PSG d'aujourd'hui qui, je trouve, psychologiquement a un petit peu changé.
Oui, Romain, et après c'est pour toi.
C'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain déjà cette saison. Face à la Real Sociedad, le PSG était favori, il fallait absolument passer, oui, sinon c'était la honte. Match aller, tu gagnes. Match retour, oulala, attention, faut savoir gérer une avance. Anoeta, s'il y a un peu d'ambiance, ça devient un bourbier, si tu prends un but vite. 2-0. Fin.
C'était en huitième.
T'as eu le temps de 3 semaines. Et match retour, quart de finale, pardon. Oh là là, le Paris Saint-Germain qui doit remonter un résultat, ils l'ont jamais fait. La pression, il faut absolument. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc non, ce PSG-là, je veux bien qu'on rumine toujours les démons du passé, c'est normal, etc. Mais le PSG de cette année nous a montré que justement, mentalement, il était là. Grâce à l'apport de son coach. Hein. Donc c'est un truc qu'on. C'est une épreuve. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Il faut la remporter.
Voilà. Ouais, justement, je suis curieux de voir quelle stratégie de communication va mettre en place Luis Enrique, parce qu'on l'a vu, elle était très claire contre le Barça. C'est pas nous les favoris, c'est eux, ils ont 5 Champions League, nous on n'a jamais rien gagné, on va juste essayer d'aller de l'avant. Et là, je suis curieux de voir, parce que clairement, hein, ils sont favoris. Est-ce qu'il va assumer ce rôle de favori, comment il va le faire? Moi, ce que je verrais utile, c'est de prendre un rôle de favori, dominateur, on y va, on veut gagner, etc. Comme peut le faire un Real Madrid quand ils sont dans cette position de force-là, justement, et que quand le match commence, même les adversaires se disent, de toute façon, c'est pas possible, quoi. Ils sont largement au-dessus de nous, c'est leur compète, il n'y a rien à faire. Et il faudrait que le PSG, justement, adopte cette mentalité et cette attitude. Et est-ce que Luis Enrique serait capable de mettre cette petite cerise sur le gâteau là, qu'il est en train de faire de mentalité et de préparation mentale du Paris Saint-Germain? Ce serait extraordinaire.
En tout cas, sachez que c'est Anthony Taylor, l'arbitre anglais, qui sera le sifflet de cette rencontre. Les copains, très rapidement, on a moins de 2 minutes pour le faire. Avec quelle équipe qui prend la défense? Bon, gardien de but, voilà. Alex, en défense?
Ouais, l'équipe les 4, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes.
Ça, c'est pour le bloc défensif. Milieu de terrain, cher ami.
Vitinha, Warren, Fabian.
Fabian Ruiz? Ah oui, Fabian
peut-être
Ruiz.
Peut-être Asensio à la place de Ruiz.
D'accord.
Moi, j'aurais préféré Fabian Ruiz pour gérer un peu plus.
Mais
je trouve qu'Asensio, contre le Havre, il a rien apporté du tout en première mi-temps. Il n'a pas... Techniquement, ça m'a pas convaincu, même si on sait qu'il a les qualités. Je trouve qu'en termes de caractère, c'est un peu. Je reste sur ma faim avec.
Et pour moi, tu peux pas dissocier le milieu de terrain à la ligne de 3 de
Justement, la ligne de 3.
Pour moi, il faut partir avec Mbappé, Barcola, Dembélé.
Bon, j'adore Gonçalo Ramos, hein, c'est bien. Mais dans ce schéma-là, à l'extérieur, où tu vas pouvoir avoir de la transition, etc., ces trois-là, ils t'aident trop. Et donc, c'est pour ça aussi que je mets peut-être Asensio un peu plus bas, parce qu'il a cette capacité avec ce pied de pouvoir balancer des ballons devant assez rapidement.
Écoutez, laissez-moi croire qu'après le 11 titulaire que j'ai vu contre Le Havre, avec Barcola titulaire, avec Colomouani titulaire, Dembélé titulaire, j'ai du mal à croire que deux de ces trois joueurs débuteront contre Dortmund.
Ils sont sortis à la mi-temps, hein, Barcola, Dembélé. Hein.
Écoute.
Mbappé est rentré à la mi-temps et Asensio est sorti à la mi-temps aussi.
Il y en a un qui veut donc Gonçalo Ramos devant, accompagné.
Non, mais en vrai, de voir Gonçalo Ramos titulaire, je trouve que ce serait étonnant. Ce serait une récompense pour le joueur par rapport à ses dernières performances et par rapport à la saison qu'il fait. Mais je pense que malgré tout, ça ira du côté de Romain avec Barcola, Mbappé et Dembélé.
Par contre, au retour, il peut jouer peut-être. Je vous
rappelle que le match est à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris, Dortmund, Paris, Saint-Germain. La demi-finale aller de Ligue des Champions. Énorme soirée sur notre antenne de 18h à minuit. On va se régaler, bien évidemment. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Oui, parce qu'on peut discuter très longtemps et le studio, on peut le garder, mais il y a des gens qui arrivent derrière et après, derrière, on peut se faire chasser. Donc,
c'est-à-dire que des gens travaillent.
Il y a d'autres gens qui ont réservé ce studio et à un moment, faut qu'on le rende. Faut qu'on rende les clés. On aurait dû arriver un tout petit peu plus tôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Merci à Romain, merci à Gary, merci à Alex de cette bonne humeur et de toutes ces belles infos et de ces bons moments dans ce podcast. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à partager, à commenter sur YouTube, en podcast, sur francebleu.fr, mais aussi sur Twitter, sur tout ce que vous voulez, toutes les plateformes, vous n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir, mettez-nous des petits commentaires et on se retrouve bien évidemment pour le débrief de cette rencontre entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Ça sera le 2 mai pour le podcast. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Prochain rendez-vous PSG sur l'antenne de France Bleu Paris. Et là, c'est sur les ondes, c'est 100% PSG le mag avec Pia Clément entre 18h et 19h. Merci à toutes et à tous, il est temps de débrancher ce podcast.